au fond de leur cœur une promesse, peut-être plusieurs promesses, que Dieu leur aurait faites un jour. Alors je ne vais pas forcément vous laisser répondre, c'est une question personnelle, mais normalement on devrait tous pouvoir dire oui, parce que si on n'a pas reçu une promesse spécifique, alors peut-être c'est le cas pour certains, mais on s'attache en tout cas tous à une promesse pour le peuple de Dieu, celle de la foi, celle d'être racheté par le salut en Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à l'origine de ce plan divin du salut pour racheter l'humanité, avec l'histoire d'un homme que vous connaissez très bien, qu'on connaît finalement tellement bien, qu'on banalise peut-être parfois un peu cette histoire. Un homme qui a vécu il y a 4000 ans, et dont l'histoire est un petit peu à l'origine de la nôtre aussi ce matin. Cet homme, c'était un Irakien, originaire d'une ville appelée Ur, en Chaldée. Vous avez bien sûr reconnu Abraham. Abraham. Alors, on est dans l'Ancien Testament ce matin, mais cette histoire d'Abraham est souvent citée par Paul dans ses lettres. C'est donc un personnage qui est évoqué comme un modèle de foi. Et on va revenir un petit peu ce matin sur cette histoire et voir ce qu'elle peut nous apprendre aujourd'hui et comment elle peut nous encourager dans notre marche de foi aujourd'hui. Abraham, c'était un homme sans histoire, un descendant de Noé, c'était un éleveur. Il était marié à une femme, Sarai, qui deviendra Sarah. Et puis, un jour, Dieu va s'adresser à lui au travers d'une demande un peu surprenante. On ne sait pas si Dieu lui avait déjà parlé avant. Mais en tout cas, la Bible nous relate cette histoire de Dieu qui va s'adresser à lui en Genèse 12, versets 1 à 4, et qui va lui dire, ce passage que vous connaissez certainement bien, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » On peut dire que c'est quand même un appel assez costaud, hein, ça rigole pas. Et Abraham, à ce moment-là, il a quand même 75 ans. Alors à l'époque, on vivait plus vieux, mais quand même, 75 ans. Il avait probablement déjà bien roulé sa bosse, comme on dit. Il avait largement atteint l'âge de la retraite. Un âge auquel, ben, en général, on réfléchit à plutôt comment terminer sa vie correctement, de la meilleure façon possible. C'est vrai que parfois, on observe les jeunes convertis cherchent à tout prix à connaître le plan de Dieu pour leur vie. Qu'est-ce que Dieu, tu attends de moi? Quel est ton plan pour moi? Et puis, quand on a un peu d'expérience, on fait peut-être un petit peu moins cette prière parce qu'on sait que les plans de Dieu ne sont pas toujours de tout repos. Et Abraham, il avait l'âge d'être finalement tranquille, d'administrer ses affaires, tranquillement assis à l'ombre d'un palmier dattier. Et lorsqu'il reçoit cette parole du Seigneur, Abraham est installé à Haran. C'est une ville commerciale, prospère, qui correspond au sud-est de la Turquie actuelle. Et c'est une ville qu'il a rejoint après une première période de migration depuis la Chaldée, sa terre natale. Et dans la suite de cette exhortation ce matin, j'aimerais qu'on prenne aussi le point de vue d'un personnage qu'on oublie un peu dans cette histoire, qui est pourtant bien présent, c'est Sarai, l'épouse d'Abraham. Sarai, c'est un très joli prénom. Littéralement, ça signifie, je ne sais pas si vous le savez, « ma princesse ». C'est le prénom de Sarai, le prénom que ses parents lui ont donné. Et on peut imaginer un petit peu la surprise de Sarai lorsque son mari, Abraham, vient lui dire « bah écoute, Dieu m'a parlé, on va être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre ». Je me dis qu'elle a dû quand même se demander qu'est-ce qui se passait dans la tête de son mari. Et peut-être que, mesdames, vous avez déjà fait cette expérience de votre mari qui vient vous trouver en ayant une super idée, un super projet, une nouvelle idée, un nouveau projet qui parfois sort tout droit d'un monde un peu imaginaire. Le genre d'idée qui peut parfois être source d'inquiétude, se dire « mais qu'est-ce qui lui arrive ?» Et je pense que Sarai devait être pleine de questions, mais où est-ce qu'on va aller? Et finalement, pourquoi faire? Combien de temps? Par quels moyens? Pourquoi on va abandonner notre vie ici à Haran? Et puis Abraham, c'est quel Dieu qui t'a parlé au juste? parce qu'à cette époque, bon, ils n'étaient pas tous croyants dans le Dieu d'Abraham, justement. Et il y a de fortes chances pour que Abraham, il n'ait pas eu beaucoup de réponses à apporter à ce moment-là. Parce que s'il a bien reçu cet appel du Seigneur, les détails de ce plan, il ne les a pas. Dieu ne lui a pas donné, il ne lui a pas expliqué comment ça allait se passer. Le juste dit, je vais faire de toi une bénédiction pour les familles de la terre. On ne sait pas trop comment Dieu lui a parlé, en termes de forme, mais ça devait être particulièrement fort pour vraiment qu'il soit prêt à obéir sans trop discuter. En tout cas, la Bible n'évoque pas une réflexion d'Abraham qui dirait « bon, attends, je ne sais pas, je vais réfléchir ». A priori, non, il est vraiment il est prêt et il s'engage donc dans un long voyage vers le pays de Canaan, l'actuel Israël. C'est un trajet d'environ 600 km qu'ils vont faire. Et sur cette première partie de ce récit, on ne peut être qu'admiratif de la foi d'Abraham. Dieu qui lui demande quelque chose, on ne sait pas vraiment comment, mais Abraham obéit sans trop poser de questions. Il est prêt à quitter un petit peu sa vie, son confort, pour obéir à cet appel de Dieu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, parfois, on peut être un peu envieux de se dire « mais moi j'aimerais bien aussi que Dieu clairement me parle de cette manière pour me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il attend de moi ?» Mais quand on lit la Bible, on sait que quand Dieu parle distinctement, généralement, il faut être prêt derrière à obéir à ce qu'il nous demande. Ce n'est pas toujours des choses faciles. Alors on pourrait se dire, un tel acte de foi, un tel engagement de la part d'Abraham, sans discuter, il est prêt à tout quitter, forcément ça va être suivi mais d'une bénédiction, d'une récompense incroyable. Dieu va vraiment récompenser et exaucer cette promesse et lui faire prendre possession de ce magnifique pays promis. Vu l'obéissance d'Abraham, eh bien, pas vraiment. En fait, pas du tout. Je pense même que quand ils sont arrivés dans ce pays promis, ils ont dû vraiment se poser des questions. Parce que premièrement, le pays promis, il est habité. Il y a les Cananéens qui sont là. Et ils ne sont pas franchement dans l'idée de laisser leur pays à Abraham et ses descendants. Et puis deuxièmement, quand ils arrivent dans ce pays promis, en fait, c'est la misère. Parce qu'à peine arrivé, il y a une famine terrible qui survient, où les gens meurent de faim. Et en fait, c'est la catastrophe. Et là, je me mets un peu à la place d'Abraham, qui a embarqué sa femme dans ce périple, dans cette aventure, puis qui se retrouve à cet endroit de dire mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi ? Ça ne se passe pas comme on l'avait prévu. J'ai vécu une expérience un peu similaire il y a quelques temps, où on a organisé un voyage en famille. Un joli voyage. Et puis, dans l'océan Indien, à l'île de la Réunion. Et puis, c'est vrai que dans les jours qui précédaient notre départ, la météo annonçait un cyclone dans ce secteur. Bon, on s'est dit, c'est quand même grand, l'océan Indien. La Réunion, c'est une toute petite île. Bon, on devrait quand même y échapper. Puis, au fur et à mesure que l'heure de prendre l'avion approchait, la trajectoire du cyclone commençait à vraiment faire un virage pour descendre tout droit sur l'île de la Réunion. On a beaucoup hésité, on a fini par partir, et puis on a subi du coup le cyclone. Bon, nous, on était touristes, ce n'était pas bien grave pour nous. Mais c'est vrai qu'on s'est dit, mais dans quoi on s'est embarqué? Mais qu'est-ce qu'on fait là? Quel était ce plan un peu foireux? Et je me mets à la place d'Abraham, qui s'est embarqué dans cette histoire avec sa femme, de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Et puis à ce moment-là, on peut supposer que Sarah lui a dit cette phrase terrible, mais je te l'avais bien dit, qu'est-ce qu'on fait là? Où est-ce que tu nous as embarqués? Et puis Sarah, elle avait de quoi râler parce que on a tout quitté, tout laissé derrière nous, toute notre vie pour se retrouver étranger, finalement à mourir de faim. Mais c'est une arnaque, cette histoire. À ce moment-là, Abraham et Sarah, ils font une expérience qu'on peut aussi faire parfois, c'est que suivre les promesses de Dieu, ça ne nous entraîne pas toujours où on l'avait imaginé. Et quand on engage notre foi, il y a quand même des moments qui peuvent faire naître le doute. Et là, je pense que Sarai, elle a dû avoir vraiment des doutes sur la révélation reçue par son mari. Il est obstiné, il semble obstiné, mais est-ce que réellement il a bien compris? Est-ce qu'il ne s'est pas trompé? Est-ce qu'il n'a pas mal compris, mal entendu? Et dans tous les cas, la Bible nous dit qu'ils ne se sont pas rebellés, ils n'ont pas mis la parole de Dieu en doute, mais face à cette situation inattendue, ils ont quand même pris une décision, une initiative personnelle qui va être lourde de conséquences. Ils vont, face à cette famine, décider de quitter le pays promis. En fait, à peine arrivés, ils repartent déjà à cause de cette famine. Ce n'est pas Dieu qui leur demande, c'est eux qui agissent de leur propre initiative pour éviter cette période difficile. Et Abraham va prendre la décision de se rendre en Égypte le temps que ça passe, que cette famine passe. Et il se retrouve du coup à nouveau en déplacement pour un périple d'à peu près 400 kilomètres, 400 longs kilomètres pendant lesquels Sarah lui a peut-être dit « Ah ben, il est beau ton pays promis. Ah, il est beau ton pays promis. » Et malheureusement pour elle, elle n'est pas au bout de ses peines. Connaissez ce passage un peu curieux où Abraham va arriver en Égypte, prendre peur qu'on lui vole sa femme Sarai et qu'on ne le tue pour ça, parce que Sarai, elle est très belle. Et il lui vient une idée franchement étrange, pas terrible, vraiment un peu pourrie, on peut le dire. Cette idée, c'est de faire passer Sarai pour sa sœur, pour ne pas que les Égyptiens ne le tuent pour lui prendre. Alors, les Égyptiens n'avaient pas bonne réputation à l'époque. Et cette idée va fonctionner, mais elle va fonctionner tellement bien que la pauvre Sarai va se faire enrôler, entraîner dans le harem du pharaon. Et là, la situation, elle se trouve être encore pire qu'avant. Cette famine qui survient leur fait quitter le pays promis, ça fait chanceler un petit peu la confiance d'Abraham. Sa foi et sa confiance étaient remarquables, mais pas tout à fait infaillibles. Et face aux peurs, aux doutes, à ce pays un peu hostile, à cette famine, il fait le choix de partir. Et c'est vrai que dans nos vies, parfois, quand la promesse de Dieu tarde et que la crainte arrive, parfois on est tenté de prendre de mauvaises décisions. Parce qu'on est un peu bercé par cette idée de la vie de foi ou de l'évangile qui nous promettrait une vie de foi un peu facile, un peu linéaire, où tout se passe bien. Eh bien, parfois, quand on se confronte à la réalité, notre foi peut un petit peu chanceler. Et là, dans cette situation, pour Abraham et Sarai, c'est clairement la catastrophe. Ils sont en dehors du pays promis, dans un royaume étranger, et Sarai est devenue littéralement, on va prendre les mots, un objet sexuel pour le pharaon. Imaginons deux secondes l'horreur de ce qu'elle a vécu à ce moment-là, elle qui vivait peu de temps avant sa vie tranquillement à Haran, une ville bien prospère, tout allait bien, et se retrouve dans une situation catastrophique. Quand Dieu nous donne un objectif à atteindre, on est quand même bien responsable du chemin que l'on décide de prendre pour atteindre cet objectif, surtout s'il ne nous en donne pas les détails. Et là, la crainte d'Abraham pour sa vie va le pousser à mentir et à entraîner sa femme dans une situation catastrophique. Pourtant, si Abraham était resté parfaitement focus sur sa promesse, il aurait pu se dire, vu ce que Dieu m'a promis, il va rien lui arriver, il va rien m'arriver, c'est pas possible vu cette promesse. Mais on voit que malgré tout, il avait aussi ses craintes, il avait aussi des doutes, c'était pas facile malgré cette révélation incroyable qui lui a donné la force de tout quitter. Eh bien, il est aussi quand même pris par la difficulté, le doute. Et, chose très intéressante, Dieu ne lui en fera jamais le reproche. Dieu ne lui en fera jamais le reproche. Et d'ailleurs, Dieu va le tirer du pétrin dans lequel il s'est embarqué, et surtout dans lequel il a mis sa femme. Heureusement pour elle, Dieu va infliger tout un tas d'ennuis au pharaon, qui va finir par comprendre que cette femme, c'est pas la sœur d'Abraham, mais c'est son épouse. Et du coup, il va lui rendre, il va même reprocher à Abraham de l'avoir un petit peu, de lui avoir menti. Donc il va lui rendre son épouse, il va même lui donner des biens, un peu en guise de, on va dire, de dédommagement. Et ils vont donc quitter l'Égypte, un peu plus riches qu'ils n'y sont rentrés. Si on réfléchit quelques instants, une famine qui survient, qui les pousse à aller en Égypte, Sarai qui se retrouve d'une certaine manière asservie au service du pharaon, esclave du pharaon, des fléaux qui obligent le pharaon à libérer Sarai, un couple qui quitte l'Égypte plus riche qu'il n'y est entré, mais c'est une très jolie préfiguration du peuple hébreu, de ce que le peuple hébreu va vivre un peu plus tard au travers de Moïse. C'est quasiment la même histoire. Et les voilà tous deux de retour au pays de Canaan. Et Dieu, à ce moment-là, va les encourager en renouvelant sa promesse. Alors, quand je dis « les encourager », c'est par le biais d'Abraham, parce qu'à Sarai, Dieu ne lui parle pas. En tout cas, la Bible ne l'évoque pas. Dans Genèse 13, versets 14 à 17, il est dit « L'Éternel dit à Abraham, Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alors rappelons quand même que Sarai, elle est stérile et elle est âgée. Elle n'a pas réussi à avoir d'enfant de toute sa vie. Et voilà que Dieu promet une descendance à Abraham. Abraham qui visiblement n'ose pas dire à Dieu, en fait, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Cette histoire de descendance, en fait, ça ne va pas être possible. C'est vrai que c'est un projet sympa, ça donne envie, mais juste Dieu, ce n'est pas possible. Peut-être il serait plus logique que tu choisisses Nahor, qui était le frère d'Abraham, qui lui a eu 12 fils, on ne sait pas les filles, mais en tout cas 12 fils, et Sarai, elle n'en a eu aucun. Et maintenant, en plus de ça, elle n'est plus tout à fait en âge d'en avoir. Alors même si il vivait vieux à l'époque, la Bible ne mentionne pas d'exemple d'enfantement aussi tardif. En fait, c'est fini pour eux. Et Abraham, il le sait. Mais contre toute logique humaine, il décide de faire confiance. Et la vie continue. Alors, il va y avoir une rencontre un peu étrange. Je ne vais pas la développer parce qu'elle est elle-même sujet de ce qui pourrait être une prédication, mais une rencontre avec ce prêtre de Salem, autrement dit de Jérusalem, ce Melchisédek, qu'on aime comparer à Jésus, à dire que c'était déjà Jésus qui était là. Je ne m'attarde pas sur ces versets. Mais dans la suite de l'histoire, une fois encore, Dieu va renouveler sa promesse à Abraham. Mais cette fois-ci, Abraham ose signaler qu'il y a quand même un problème. Dieu, il y a un petit problème. Cette histoire de pays promis, ma descendance, c'est super, c'est cool, mais juste, j'ai pas d'enfant. Et tu l'as pas remarqué, mais Sarai, elle commence à vieillir. Et je veux bien ce que tu me dis, mais en fait, c'est pas possible. On a essayé toute notre vie d'avoir des enfants, on n'arrive pas à faire ce que tu demandes. Alors voilà, Abraham va dire en Genèse 15, versets 3 à 6, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui adressa la parole, « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Regarde vers le ciel, compte les étoiles si tu peux les compter, telle sera ta descendance. » Et là, Abraham va avoir une réaction qui est un des passages les plus importants, probablement en tout cas tout l'Ancien Testament, Genèse 15, verset 6, « Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. » Il n'en rajoute pas. Il ne fait pas tout un sketch. Il a signalé à Dieu qu'il y avait un problème. Dieu lui montre qu'il est au courant et que ce n'est pas un problème. Et Abraham fait le choix de faire confiance. C'est vraiment un passage important parce qu'il va être repris par Paul plein de fois pour expliquer un principe essentiel de la foi chrétienne. Abraham n'est pas déclaré juste par ses actes, mais il est déclaré juste parce qu'il a fait confiance dans la promesse. Et c'est un peu la même chose pour nous aujourd'hui. La foi en Dieu, c'est indépendant des circonstances, c'est quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est difficile dans notre monde, dans notre vie qui est très, très, très rationnelle, très basée sur ce qu'on voit, sur ce qu'on observe. Mais la foi en Dieu est indépendante des circonstances. La foi, c'est prendre le risque de faire confiance sans preuve, sans argument et parfois même contre toute logique. Parce que là, c'est vraiment contre toute logique. Et on voit que dès cette histoire d'Abraham, le principe même qui est au cœur de notre salut, celui de la foi envers et contre tout, il est mis en place par Dieu. C'est dans la confiance, dans les paroles et les promesses de Dieu que nous sommes déclarés justes, pas par leur réalisation, mais par la confiance qu'elles vont se réaliser. Si Dieu t'a fait des promesses, alors ce ne sont pas tes actions qui leur permettront de s'accomplir, mais c'est ta confiance en Dieu. Et ça, c'est pas facile. Ça, c'est pas facile. Et encore une fois, dans cette histoire, c'est Sarai qui va en faire les frais. Imaginons un instant. On peut essayer de faire un peu cet effort, d'essayer de se mettre à sa place. Dieu a fait à son mari une promesse incroyable, celle d'être le père d'une descendance nombreuse, d'être une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Une bénédiction qui ne s'arrêtera pas. C'est quand même une promesse incroyable. Alors bon, peut-être aujourd'hui, beaucoup diraient « Bon, écoute, Dieu, une descendance, ça ne m'intéresse pas, donne-moi plutôt des sous ou la gloire, ou je ne sais quoi. » Mais en tout cas, à cette époque, ils étaient très conscients de la bénédiction d'avoir des enfants, une descendance. C'était très ancré dans cette culture. En tout cas, voilà, son mari a des promesses incroyables, mais elles ne se réalisent pas à cause d'elle. Si on se met à sa place, mon mari a des promesses incroyables, mais elles ne se réalisent pas à cause de moi. Mais ça devait être une situation terrible, parce que son infertilité était l'obstacle à l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et à l'époque, on ne disait pas « Ah ben voilà, la pauvre, c'est compliqué, c'est difficile ». Ben non, à l'époque, l'infertilité, c'était une disgrâce, c'était considéré comme une punition divine. Ben, imaginons, enfin, elle devait être broyée de l'intérieur, de se dire « Je suis l'obstacle à l'accomplissement du plan de Dieu pour mon mari. Mon mari a dû faire une erreur en m'épousant, je ne suis pas la bonne personne, je ne suis pas légitime. » Là, ça devait quand même être une situation. Je pense qu'elle devait vivre quelque chose proche de ce qu'on appelle aujourd'hui la dépression. Enfin, ça devait être vraiment très dur. Elle devait être accablée par l'incompréhension, la culpabilité, le sentiment d'indignité. Enfin, cette histoire de promesse, ça devait hanter ses jours et ses nuits. Alors nous, on lit cette histoire en connaissant la fin, en ayant le recul de la fin. Mais si on se met à sa place, à ce moment-là, la promesse faite par Dieu, ça fait déjà 10 ans. Ça fait déjà 10 ans que Dieu a eu qu'Abraham a eu cette promesse qui ne s'accomplit pas. Et en plus, Dieu ne parle jamais d'elle. Dieu ne dit pas que c'est par Sarai que ça va se passer. Comme si Dieu l'ignorait. Ça devait être vraiment quelque chose de difficile. Et je pense que c'était tellement insupportable, cette situation pour elle, cette impression d'être le frein à l'accomplissement de la promesse de Dieu pour Abraham, qu'elle va finalement décider de prendre les choses en main. Et comme Abraham, quand il a quitté le pays de Canaan en cause de la famine, elle va prendre les choses en main et elle va très probablement, à contre-cœur, proposer ce qu'on appellerait aujourd'hui une GPA à son mari. Dans Genèse 16, verset 2, Sarah dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile, et des relations avec ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et que fait Abraham ? Ben, le texte nous dit, il écouta Sarai. Alors, il n'a pas émis d'opposition à l'idée. Il n'a pas dit, non, certainement pas, parce que c'est au travers de toi que doit naître cette descendance. Parce que peut-être que lui-même a un doute à ce moment-là. Dieu lui a fait cette promesse, mais il n'a pas évoqué Sarai. Alors, peut-être que finalement, ce n'est pas par elle que ça doit se passer. En tout cas, il était suffisamment incertain pour obéir à cette proposition de Sarai sans trop poser de questions. Peut-être même que cette idée... lui trottait dans la tête, en fait. Je ne sais pas. En tout cas, il n'a pas trop discuté. Et voilà que, à nouveau, la pauvre Sarai, qui avait dû se faire une raison de ne pas avoir d'enfant, la voilà, elle qui vivait une vie tranquille à Haran, à devoir laisser son mari avoir des relations avec sa servante. Elle qui s'est retrouvée sur les routes, dans un pays étranger, à subir la famine, à être abusée par le roi d'Égypte, à vivre cette culpabilité, cette indignité. Eh bien, elle se retrouve à contre-cœur à devoir laisser son mari et aller avec une autre. Voilà une femme qui peut dire, depuis que Dieu a fait une promesse à mon mari, bah, ma vie, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Elle avait de quoi se sentir brisée. Et on ne peut pas vraiment lui reprocher ses doutes ou son manque de foi à ce moment-là. Et d'ailleurs, on peut encore une fois noter que Dieu ne leur reprochera rien. Dieu ne leur fera pas reproche non plus de cette histoire. Mais à chaque fois que dans l'histoire, les hommes prennent des initiatives pour accélérer un peu la promesse, eh bien, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien parce que ce qui devait être une solution va finalement devenir ce qui devient un problème pour Sarai. C'est-à-dire qu'effectivement, Abraham va avoir un enfant, Ismaël, avec Agar, la servante, mais après ça, Sarai ne va plus supporter sa servante, elle ne va plus supporter non plus de voir cet enfant qui n'est pas le sien. Ce qui devait être une solution va devenir une souffrance encore plus forte pour elle de voir sous ses yeux tout le temps cet enfant qui lui rappelle qu'elle n'a pas pu en avoir. Et cette situation difficile va durer pendant encore 13 ans. 13 longues années. On est à 23 ans après que Dieu ait parlé à Abraham en lui disant « quitte ton pays ». C'est long, c'est très long. Et si on réfléchit bien, chaque jour qui passe éloigne la possibilité de voir cette promesse se réaliser. Chaque jour qui passe, ça devient encore plus fou pour elle d'imaginer d'avoir des enfants, encore plus improbable, encore plus impossible. Peut-être au tout début de la promesse, ça aurait pu... Mais là, chaque jour qui passe, ces 23 longues années, ne font que lui rappeler que c'est pas possible et ça semble de plus en plus impossible. Chaque jour qui passe semble rendre cette promesse de plus en plus impossible à réaliser. On va lire dans Genèse, je vais lire dans Genèse 17, verset 1 à 9. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre et Dieu lui dit « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'un grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Une nouvelle fois, Dieu renouvelle sa promesse. 24 ans cette fois, après qu'il lui ait demandé de quitter son pays, 24 ans pendant lesquels cela ne s'est pas encore réalisé, ça n'a même pas, ne serait-ce que commencé à se réaliser. À cet Irakien, choisi par Dieu dans sa vieillesse, qui avait passé 75 ans à mener sa vie a priori librement, tranquillement, Dieu voilà, va renouveler sa promesse et il va lui montrer que, en dépit des apparences, Sarai est bien au cœur de cette promesse. Parce que pour la toute première fois de cette histoire, Dieu va évoquer Sarai. 24 ans après qu'il ait fait cette promesse, il va pour la première fois exprimer le fait qu'elle a toute sa place et toute sa légitimité dans cette histoire. Et il le fait au travers d'une toute petite phrase, toute simple, mais qui est absolument extraordinaire. Dieu va dire à Abraham, c'est Genèse 17, verset 15, « Quant à ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, ma princesse, mais Sarah, princesse. » Et cette phrase toute simple rétablit Sarah, rétablit son honneur, affirme sa valeur d'épouse d'Abraham. Elle n'est plus ma princesse, prénom donné par ses parents, mais princesse, nom donné par Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que Dieu ne dit pas à partir de maintenant, dorénavant, son prénom sera Sarah. Mais il dit, son nom est Sarah, son nom est princesse. D'une certaine manière, ce n'est pas nouveau, ça l'a toujours été. Malgré les doutes, les peurs, la famine, le déshonneur, la honte, les abus, Sarah est princesse, choisie par Dieu, pour être l'ancêtre d'une certaine manière de tous les descendants et d'être de tous ses descendants et d'être d'une certaine manière spirituellement un petit peu l'ancêtre de nous qui sommes aujourd'hui l'Église. Et cette promesse faite à Abraham, elle est pour elle aussi. Genèse 16, verset 17, « Je la bénirai et je t'accorderai par elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra la mère de plusieurs nations. Des rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. » Et là, Abraham, il craque. Intérieurement, en tout cas, il rigole. Enfin voilà, là, c'est plus possible, ça fait tellement de temps. Dans son fort intérieur, il rigole. La Bible nous dit, donc Genèse, toujours la suite, versets 17 à 19, « Abraham se prosterna de nouveau face contre terre et il se mit à rire en se disant intérieurement, « Eh bien quoi, un homme centenaire peut-il encore avoir un enfant ? Et Sarah, une femme de 90 ans, peut-elle donner naissance à un enfant ?» Dans son fort intérieur, il rigole, là, il n'y croit plus vraiment. Et il dit à Dieu, « Tout ce que je demande, c'est qu'Ismaël vive et que tu prennes soin de lui. » Et Dieu le reprend, « Mais non, c'est Sarah, c'est ta femme qui te donnera un fils et tu l'appelleras Isaac, ce qui signifie « il a ri ». Isaac, il a ri. « Et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. » En fait, c'est encore un très beau passage parce que Dieu, en fait, il répond à leurs interrogations d'une manière un peu détournée. Dieu ne va pas dire à Sarah, bah, écoute, oui, c'est vrai, je ne t'ai pas parlé, mais en fait, tu es dans le plan depuis le départ. Il va juste dire, non, ton nom maintenant, c'est princesse. Il fait les choses d'une manière un peu détournée, mais tellement puissante. Et puis là, de la même manière, il ne va pas dire à Abraham, allons quoi, tu rigoles ? Ça t'amuse ce que je raconte ? Tu ne crois pas ce que je dis ? Ah, bah, puisque c'est ça, je vais te retirer. Non, il va juste lui dire, bah, écoute, ton fils, tu l'appelleras Isaac, ce qui signifie il a ri. Et de cette manière, l'air de rien, Dieu montre à Abraham qu'il sait tout ce qui se passe en lui, dans son fort intérieur. Parce qu'à ce moment, Abraham, c'est dans son fort intérieur qu'il rigole. Et Dieu, en donnant ce nom, en proposant ce prénom à son fils, lui montre qu'il sait tout ce qui se passe dans son cœur et dans son fort intérieur. Et une fois encore, ça ne lui sera pas reproché. Ce passage nous montre que Dieu, connaissant tout ce qui se passe dans le fort intérieur d'Abraham, il sait depuis le départ combien ça a pu être difficile, toutes ces années, tous ces doutes, toute cette force qu'il a dû mettre à s'accrocher à cette promesse. Et dans la suite de l'histoire, un peu plus tard, trois hommes viennent à sa rencontre. Alors trois hommes qu'on identifie souvent à deux anges et un troisième qui serait probablement Jésus-Christ, vont venir à la rencontre d'Abraham. Et ce troisième personnage va expliquer à Abraham que l'année suivante, Sarah accouchera d'un fils. Sarah n'est pas présente dans la conversation, mais elle écoute discrètement depuis sa tente. Et à cette annonce, elle aussi, elle va rire. Et à ce moment-là, elle est vraiment à l'écart de cette conversation. Et le texte nous dit que l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis ? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel ? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. Cette fois-ci, ils ont un délai qui est donné, un an. Saisie de crainte, Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » »« Si, tu as bel et bien ri, » répliqua l'Éternel. Et si Sarah, elle vit les choses avec Abraham, on voit qu'elle est quand même assez similaire à lui. Sa confiance, sa foi a dû être érodée par cette attente un peu interminable. Mais elle aussi, Dieu ne lui reprochera pas. Dieu ne lui fera pas de reproche. Il va juste lui dire, « Eh bien, ton fils s'appellera Isaac. » Il a ri, elle a ri, elle aussi. C'est vrai que parfois, on traverse des périodes difficiles et on peut, comme Sarah, douter de notre légitimité, de notre valeur. On peut, comme Abraham, rire un petit peu, rire jaune à l'intérieur de nous, en pensant aux promesses de Dieu, qu'on n'a peut-être pas vu se réaliser dans nos vies. Mais il faut continuer de persévérer à placer notre confiance, notre espérance en Dieu, parce qu'il est celui qui tient ses promesses. Il est celui qui tient ses promesses. Et ce n'est pas une question d'acte ou de force, ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de temps qui passe. Le temps qui passe, Dieu, ce n'est pas son problème. Il n'y est pas soumis. Mais c'est uniquement une question de foi et de confiance. Alors, vous le savez, cette histoire, elle va se poursuivre sur plusieurs générations pour arriver finalement jusqu'à nous aujourd'hui à ce long cours. Mais pour conclure, je voudrais évoquer une dernière chose, un dernier petit détail, Sarah va mourir avant son mari et elle ne verra pas la promesse s'accomplir. Elle ne verra pas cette grande nation promise. Elle va rester toute sa vie étrangère, en transit, dans un pays qui n'est pas le sien. Et elle n'aura pas d'autre enfant qu'Isaac. Mais l'histoire se termine avec un détail intéressant, c'est que Abraham fait le choix d'enterrer Sarah dans le pays promis. Et ça, à l'époque, c'était pas du tout la coutume. On enterrait les gens dans la terre de leurs ancêtres. Alors, on le voit un peu plus tard dans la Bible où on a l'histoire de Joseph qui va demander à ses enfants de ramener ses ossements en terre d'Israël lorsque le peuple va quitter l'Égypte. C'est quelque chose qui se faisait à l'époque. Et Sarah, elle sera finalement la toute première représentante de cette nation sainte, de ce peuple choisi, à être enterrée dans le pays promis, sur un terrain qu'Abraham va acheter à grand prix. Et lui non plus, finalement, il ne verra pas cette promesse s'accomplir. Il verra avant de mourir ses petits-enfants, Jacob et Ésaü, mais c'est tout. Et malgré cette promesse de posséder tout le pays, il doit quand même acheter à grand prix le terrain sur lequel il va enterrer son épouse, qu'il rejoindra à sa mort. Mais il a eu confiance et ça lui a été imputé comme justice. Et aujourd'hui, nous sommes témoins de l'accomplissement de cette promesse. Elle s'est accomplie telle que Dieu l'avait annoncée, ça s'est réalisé, parce que Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Et ça nous rappelle aussi un petit peu que nous sommes chacun qu'une toute petite partie d'un plan, un plan qui nous dépasse, un plan qui va bien au-delà de nos limites humaines, qui va bien au-delà de nos limites temporelles. C'est un plan divin pour racheter pour racheter l'humanité. Alors si Dieu vous a fait des promesses, et il nous en a en tout cas fait une à tous, celle de nous accueillir auprès de lui dans ce pays promis, hein, celui qu'il nous a promis, eh bien notre foi sera plus déterminante que nos actions pour y parvenir. Je vais pour terminer citer Paul dans la lettre aux Romains, c'est en version parole vivante. Abraham est notre père à tous. Et comment l'est-il devenu ? Parce qu'il a fait confiance à Dieu qui donne la vie aux morts et fait sortir l'être du néant. Là où toute espérance paraissait insensée, il a espéré et s'est cramponné avec foi à cette promesse « Nombreuse sera ta descendance ». Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples. Naturellement, il savait qu'étant presque centenaire, son corps n'avait plus le pouvoir de procréer. Il savait aussi que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais toutes ces considérations ne l'ont pas fait vaciller dans sa foi. S'appuyant sur la promesse divine, il ne succomba pas au doute. Puisant sa force dans la foi, il fit honneur à l'Éternel, étant pleinement persuadé que Dieu est capable de tenir parole et d'accomplir ce qu'il a promis. C'est précisément cette attitude qui lui attira la bienveillance divine. Cette foi lui fut créditée comme justice et lui valut d'être déclaré juste. Aujourd'hui, nous sommes-nous invités à placer vraiment notre confiance dans la promesse de Dieu au travers de Jésus-Christ, cette promesse aussi d'un pays promis, au-delà des frontières de notre vie terrestre, un pays magnifique dont la Bible nous parle, un pays pour l'éternité auprès de Dieu. Et il nous faut prendre courage et nous inspirer un petit peu de la foi d'Abraham, du courage de Sarai, qui ont affronté les difficultés, les épreuves, parfois un petit peu les doutes qui ont fait chanceler un petit peu leur confiance, mais ils ont tenu bon. Et c'est ça, c'est notre foi, c'est notre confiance en cette promesse envers les circonstances, cette confiance dans le salut en Jésus-Christ qui nous permet aujourd'hui d'être déclarés justes. Seigneur éternel, je te remercie pour ta bonté, ta fidélité. Et Seigneur, c'est vrai que nous sommes réunis ce matin parce que nous attachons à cette promesse qu'il y a en ton nom, qu'il y a en ton sacrifice Jésus à la croix, cette promesse d'une vie éternelle auprès de toi. Et c'est ce en quoi nous plaçons notre foi et notre confiance. Et Seigneur, ce matin, je veux aussi te demander pardon pour toutes les fois où peut-être à la manière d'Abraham, on a des moments un petit peu d'hésitation, on a des moments où peut-être dans ce que tu nous demandes, on aimerait accélérer les choses ou faire les choses à notre manière. Et Seigneur, nous voulons considérer que tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui conduit toutes choses, tu es le berger qui guide son pâturage, on l'a chanté ce matin. Et Seigneur, je te prie de nous aider aussi à grandir, à persévérer dans cette foi et dans cette confiance que tu nous conduis, que tu nous guides pour atteindre ce pays promis auprès de toi. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de l'espérance. L'espérance, c'est croire quand les circonstances ne sont pas forcément favorables. Mais Seigneur, je te remercie pour cette espérance tellement précieuse dans les temps que nous vivons, d'être attaché à toi, à ta parole, à ta fidélité et à tes promesses. Merci d'être ce Dieu qui tient ses promesses. Amen.